La MRC de Bécancour est fière de présenter ce balado qui nous amène dans les coulisses du livre « À village découvert » par le conteur Marc-André Fortin. Bonne écoute!
Chaque village a son histoire. Chaque village a quelque chose de légendaire. Des gens plus grands que nature, puis bien des anecdotes à se raconter. Bienvenue dans le balado « À village découvert » avec le conteur Marc-André Fortin.
OK. Moi, c'est pas compliqué. Moi, j'écoute Marc-André Fortin, puis je répète les affaires qu'il dit. Tu sais, le gars, il a dit, une barbe. Oui, c'est ça. C'est exactement la même face. Tu l'as parfaitement.
Fait que quand je reprends tes phrases, c'est comme si je m'auto-copiais.
Wow. Espèce de fou.
Mais qui ne connaît pas René Beaudoin? Bon, je le sais, là, une méchante gang. Mais moi, je le connais depuis 15 ans. Puis ça fait genre 17 ans qu'il me parle, qu'il m'entretient le tympan. Tu vois-tu le genre de gars que c'est, ça? On se parle, il me parle, on rit, on s'exagère la vie, on se croise pas assez souvent. Si j'avais pas eu de grand-père, c'est lui que j'aurais voulu avoir. Mais juste à Noël ou à Pâques, là. Question de me reposer le tympan entre deux visites. Puis quand il va vous jaser ça, si tu veux te l'imaginer dans ta tête, pense à Gandalf, mais plus jeune. Il est pareil. Il est pareil sans le chapeau. Croiser René, c'est fraterniser avec la magie des mots, la sorcellerie de notre patrimoine, puis parfois se partager une petite potion de rouge fermenté en fût de chêne. 10 ans.
René Beaudoin?
Oui.
Merci. Merci. En fait, j'ai la question que je posais à côté. Pourquoi tu as dit oui à ça, à ce projet-là?
Parce que je t'aime puis t'es fou. C'est simplement pour ça.
Et c'est la fin de l'épisode. On va laisser ça avec ça. Puis c'est réglé, là.
Pour être sûr qu'ils disent pas d'autre chose.
Oui, c'est ça.
Et puis votre complicité, là, on va se le dire.
Avec elle aussi, j'ai complicité. Tu me diras que j'ai pas le choix, là. C'est elle qui réalise le balado, mais quand même. Valérie Deschamps. C'est elle qui nous récitera si René lui laisse de l'espace-temps. Elle nous lira des extraits du livre, me remettra à ma place et émettra des petits commentaires ici et là, dont là, là.
Hey Marc-André, j'ai comme une demande spéciale. OK, en fait, comme c'est moi qui réalise le balado, c'est à moi que je fais la demande. Je veux encore plus de rire de René Beaudoin, s'il vous plaît. OK, merci!
Okay. Quand t'as lu, t'as vu, t'as su que t'étais dans le livre, c'est quoi ça a fait?
J'étais très touché.
Parce que?
Ben, je sais pas, tu sais, ce personnage-là que je mène depuis déjà 1982, qui s'appelle Baptiste Durand, qui est fondeur de Cuillère, tu sais, de se retrouver comme ça dans une exposition de musée, de se retrouver dans un livre, etc., pour moi, là, ça me touche énormément. Tu sais, ça dit que les gens aiment autant mon fondeur que moi, j'aime mon fondeur, parce que c'est comme si j'aimais une autre personne. Tu sais, c'est mon fondeur de Cuillère,
C'est toi, mais...
C'est moi, mais c'est comme exagéré. Si c'était quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, tu sais, ma double personnalité.
Pendant que s'étiraient les comparaisons, Euphémie servit un morceau de tarte à la farlouche aux deux hommes. Puis, dans un élan des grandes occasions, Joachim plongea sa cuillère en étain dans le morceau plus petit que la panse. Les cuillères de la maison provenaient du fondeur de la région, le bonhomme Durand. Grand amateur, lui aussi, de tarte à la farlouche, surtout celle d'Euphémie. Le bonhomme Durand pouvait manger une demi-tarte pendant que ses moules réchauffaient sur le dessus du poêle à deux ponts. Même si Euphémie avait compris le stratagème du bonhomme, elle ne disait mot. L'avantage de le laisser manger, c'était qu'ainsi, il gardait le silence. Homme aux grandes palabres, il pouvait entretenir n'importe qui pendant des heures. Impossible de la journée. Il affirmait qu'habituellement, il était payé pour parler. En effet, lorsqu'il donnait des cours de fondeur ou alors des conférences sur le sujet, ou bien lorsqu'il était invité à donner des prestations à des apprentis, il recevait une rémunération. Le bonhomme Durand se plaisait à dire que pendant que les moules chauffaient, il entretenait la maisonnée gratuitement. Euphémie, quant à elle, se demandait bien combien cela pouvait coûter pour qui se la ferme. Finalement, elle se disait qu'une demi-tarte était peu chère pour un brin de silence.
C'est exactement lui que je décris. Puis la blague de combien ça coûte pour qu'il se la ferme, ben est vrai. C'est René lui-même qui me l'a conté, cette anecdote-là. Quand il était animateur au camp Le Manoir de Charlevoix, un des frères du Sacré-Cœur lui avait posé la question. Il parle plus qu'un curé en pleine messe. Ben, ça doit être pour ça qu'il est fan d'histoire ecclésiastique, de patrimoine religieux, puis de contes de curé. Hey, si le diable est souvent là dans nos légendes, le curé l'est tout autant, hey, sinon plus.
Il y a dans le conte Le piège de renard à ours, un curé qui est comme hyper chrétien, dans le sens qu'il va bénir toutes les choses. Il a peur que ses paroissiens ne fassent pas leur Pâques, ni leur Pâques de renard. Donc, il va venir loup-garou. Puis là, il s'embule avec ça. Pourquoi il y a toujours une droiture patriarcale, pas patriarcale, mais paroissiale au niveau des curés au Québec? Pourquoi il y a ça, cette droiture-là? On dirait qu'il voulait mettre un microcosme qui ne bougeait pas puis qui était à leurs mains.
Mais c'est sûr que quand on parle de cet univers-là, on a tendance aujourd'hui à beaucoup le stéréotyper en retenant qu'un seul modèle de curé. Hier, j'écoutais les films de Séraphin de 1949-1950. Je suis un peu marlot quand je suis le soir, je regarde
tu
ça.
Tu mettais à jour dans tes DVD, c'est bon.
je regardais ça. Les curés qui nous sont présentés là-dedans, ils n'ont absolument rien à voir avec les curés qui ont présenté après ça dans la série plus récente là, d'un homme et son péché là, des pays d'en haut. Et ça n'avait absolument rien à voir. Puis quand on regarde, mettons, le temps d'une paix, ouais. Les curés qu'il y avait là dans le temps d'une paix, c'était effectivement des bons pères de famille. T'sais. Je pense que ton lapsus était bon tantôt quand tu as parlé de patriarcat. Ouais, oui. C'était, le curé, là, à l'époque, c'était le bon père de famille. Mais... Et donc, ça, c'était notre modèle qu'on présentait à l'époque. Maintenant, le modèle qu'on présente, le curé, là, tu sais, c'est un pédo avec un fouet, puis qui maltraite le monde, puis qui abuse de son pouvoir, puis tout ça, tu sais, parce que notre culture puis notre perception des choses est différente. Mais c'est dommage qu'on mette tout le clergé au complet dans un seul et même moule. Il y avait autant de sortes de curés à l'époque qu'il y a de sortes de monde encore aujourd'hui, si on veut.
Mais il était-tu genre à s'ingérer quand même dans les fameuses affaires? Parce qu'il y avait une anecdote de monsieur qui m'a conté dernièrement, c'est super drôle. Il me disait, ma grand-mère, elle a eu 18
enfants.
18 enfants.
Ben oui, 18.
Le curé qui était là la félicitait, bravo, vous faites votre devoir enfanté. Le curé s'en va dans l'autre de là, est remplacé. Puis l'autre curé était comme, ben vous êtes une dévergondée qui est toujours en train de coucher.
Mais là, probablement...
Mais est-ce qu'il s'ingérait pour de vrai ou c'est encore un stéréotype qu'on a...
Ben ça, Marie-Louise Girard aux éboulements, ça c'était celle qui a inspiré la comédienne qui a joué ma mère Bouchard dans le temps d'une paix. Marie-Louise Girard avait 103 ans, puis elle avait 4 enfants, puis elle dit, j'aurais bien voulu, cher, qu'ils viennent se mêler de la chambre à coucher. Elle dit, ça c'est en ville que ça se passe, dans la grande ville à Montréal, chez les cousines. Mais elle dit, nous autres, elle dit, en campagne, elle dit, les curés se mêlent pas de ça. Fait que, tu vois, ça illustre... Il a dû y en avoir aussi en campagne qui s'en sont mêlés, ça fait pas de doute, mais ça illustre comment c'était très, très, très varié. Fait que t'en avais qui étaient, autant comme dans la société d'aujourd'hui, t'avais des prêtres qui étaient très libéraux, puis il y avait des prêtres qui étaient très conservateurs. Je parle pas de parti politique, là, je parle de façon d'être. Et d'autres, donc, qui étaient très conservateurs, puis très traditionnels, puis qu'eux autres, fallait que ça marche droit. Mais... Tandis que d'autres... Puis quand on lit la correspondance des évêques du 19e siècle, par exemple, et puis on voit les évêques qui ramènent à l'ordre les curés en disant « Hey, là, calme-toi le pompon, là. le garde, va pas... t'es trop sévère avec cette femme-là qui tu vois bien qu'elle est abusée par son mari. » Puis des affaires comme ça, c'est... Écoute, tu lis cette correspondance-là, c'est touchant de voir la compassion que pouvaient avoir les évêques et les prêtres sur les gens.
Il fait ça, René, remettre les choses en perspective. Mais tu dis, ça viendrait d'où alors, cette image-là? Est-ce que ça viendrait des contes?
Je dirais que, comme la plupart des contes qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui, tu sais, les Fréchettes et compagnie, puis tout ça, comme c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle, dans cette période-là de l'histoire du Québec, on est dans une période où on est contre le pouvoir d'un certain clergé. Et donc, parce qu'on le retrouve au niveau des sacres. Avant 1800, les sacres, c'était tort à Dieu, donc torieux, ou jarniguen, je renie Dieu, etc. Donc, c'était contre le pouvoir d'un certain Dieu qui était représenté. Puis à partir des années 1830, les sacres, c'était contre le pouvoir d'un certain clergé. Hostie, calice, ciboire, tabernacle, etc. Alors, donc, nos contes sont de cette même période-là. Alors, comme un certain nombre d'intellectuels, pas tous les intellectuels non plus, un certain nombre d'intellectuels en avaient contre le pouvoir d'un certain clergé, j'insiste toujours à chaque fois sur le mot « certain » parce que je veux pas mettre tout le monde dans le même pot, ben, c'est probablement pour ça que c'était mis comme ça. Mais actuellement, au niveau de la société québécoise puis de l'histoire sociale au Québec, actuellement, il y a un phénomène qui est de plus en plus documenté qui s'appelle, qui dit que la religion est en phase d'exculturation.
C'est-à-dire?
D'exculturation, c'est-à-dire qu'avant ça, on disait la religion, c'est un des éléments de la culture au même titre que l'alimentation, etc. Et là, on est dans une phase d'exculturation, c'est-à-dire qu'on est en train de prétendre que la religion n'est même plus un élément culturel du Québec.
Même si ça ne fait plus partie de la culture du Québec, les églises, ça demeure un référent commun. Ce que j'aime dans la création d'un conte, c'est d'utiliser des stéréotypes communs, mais d'ajouter de la couleur, comme dans mon conte de curé homme fort, l'abbé Frédéric Tétrault. Puis en même temps, je peux pas juste inventer, je dois me baser sur du concret, du réel, du palpable. René le disait, il y a différents curés pour différents stéréotypes.
Mais est-ce qu'il y avait des curés qui voulaient défendre leur village, qui étaient prêts à défendre corps et âme, prendre les armes s'il fallait, se battre au poing, puis se défendre contre un ennemi vrai ou même un ennemi imaginaire? Il devait avoir ça, des curés.
Ben, je pense que l'exemple du curé, voyons dans Belle, l'histoire des Pays d'en-haut, du curé Labelle, bon, alors, tu sais, l'histoire du curé Labelle, c'est le cas. Là. Le curé Labelle, cette espèce de gros gaillard-là, tu sais, c'était l'homme fort du village, puis là, c'était, lui, il disait à ceux qui retenaient les terres, ceux qui empêchaient la colonisation, ceux qui empêchaient le petit monde de pouvoir s'établir puis d'avoir leur maison puis toutes les affaires comme ça. Ben là, il a poussé sa logique, son implication jusqu'à devenir ministre, tu sais, jusqu'à c'est devenir vrai. Dans le gouvernement, puis dire, mais tabarouette, vous allez laisser notre monde aller s'installer. Ici, on avait le curé Marquis, tu sais, qui a été un homme, quand c'était le temps des tous les orphelins là, qui arrivaient à Grosse-Île, puis tout ça, lui, si t'en allais à Québec, il en a adopté 22. Il en a adopté 22! Puis là, il me semble que c'est ça, là, 22 ou 21, 23, mais en tout cas, l'image est là. Puis là, il est revenu ici à Saint-Grégoire, puis il dit, bien là, Madame Chose, vous, êtes-vous capable d'en prendre un? Ça sera fin si vous pouviez en prendre un. Puis vous, là, seriez-vous capable d'en prendre deux, là, il me semble, avec vos revenus? Puis vous, là, tu sais, puis là, il a replacé tout son monde comme ça, puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec des tas d'Irlandais dans le coin ici.
Autant de curés qu'il y avait d'églises. Mon curé Frédéric Tétrault organisait des concours d'hommes forts dans le sous-sol de son église. Mon curé Fauché était un expert de la confession et de la bénédiction. Le curé des Coteaux, lui, il était collectionneur de superstitions. Puis il y a finalement le curé, sans nom, que j'ai pas nommé. C'est même pas la marque originale de curé. Mais lui, il était braconnier. Puis ça, je l'ai pas inventé. Je vous le jure. Je vous le jure sur la tête de René Beaudoin qu'il c'était vrai. Il était braconnier.
Dans cette époque de grands changements, il y avait dans le village de Lemieux un curé qui modifiait mensuellement l'heure de ses messes. En effet, parfois, pour accommoder les cultivateurs ou encore les chasseurs, il pouvait devancer l'heure des célébrations. Amoureux de chasse et de pêche, il pouvait également changer les heures de messe pour sa propre personne. Peu importe la saison, le curé chassait et pêchait. Il était braconnier. Il possédait d'ailleurs un large éventail de spécimens sauvages et parfois rares. La cave du presbytère renfermait des cervidés, des poissons, des lièvres et des perdrix. 3 moufettes, 18 écureuils, un aigle royal, 2 faucons pèlerins et un ours noir. Pour sa crèche, il désirait obtenir un orignal pour remplacer le bœuf, un wapiti pour l'âne et même un castor pour prendre la place du petit Jésus. Ainsi, Marie pourrait mettre bas. Canada », blaguait-il à chaque fois. Il avait donc commencé en cachette sa chasse illégale dès le mois de mai. Les prises qui ne convenaient pas à sa crèche allaient servir de repas durant l'année et les bonnes prises décoreraient son église durant le temps de la Noël.
Un qui me vient là, dans ses pouvoirs spéciaux que pouvait avoir le curé, c'est le curé de Cap-la-Madeleine, il me semble c'est 1856, qui là monte en chaire. C'est le jour de Noël, c'est la messe de Noël. Puis là, il regarde, puis il n'y a rien que des femmes d'église. Puis là, il dit, coudonc, est-ce qu'ils sont vos maris? Répondez à votre curé. Là, moi, je l'imagine dire, répondez à votre curé, c'est votre curé qui vous parle. Où sont vos maris? Puis là, ben, la nune a dit, ben, ils sont partis à la pêche. Ils étaient tous partis à la pêche au petit poisson des chenaux, parce que la pêche au petit poisson des chenaux, ça se faisait aussi vis-à-vis le Cap-la-Madeleine, vis-à-vis la basilique aujourd'hui, puis tout ça. Puis là, il a dit, s'ils sont pour manquer la messe de la naissance de leur sauveur, il n'y aura plus de petit poisson des chenaux à Noël. Ça va commencer rien que le 26. Et depuis ce temps-là, il jamais de poisson des genoux avant le 26 décembre. Ça commence toujours le 26 décembre, et pas à cause de la fête de Noël, parce qu'il n'y a pas de petits poissons d'arriver encore. Fait que là, ils attendent tout probablement là, à hauteur. Moi, d'après moi, ils attendent à hauteur de Grondine ou quelque chose de même. Que le
que 26 fatigant, arrive. Que Fatican II déclare, oui, vous avez le droit d'y aller.
Puis là, tous les petits poissons arrivent en vitesse là, le 26. C'est beau de les voir là-bas. À Grondine de Chambault, là, t'es vous dans le fleuve. Ils attendent, ils se fortifient.
On pense que c'est des vagues, mais non, c'est
non, c'est des petits poissons des genoux qui attendent pour revenir à la place.
Ça m'amène parce que tu as dit qu'il y avait, mettons, des pouvoirs spéciaux. On parle souvent de miracles, comme si les curés amenaient souvent le miracle. En fait, il y a le curé des pins qui faisait beaucoup de miracles, qui pouvait passer à travers, mettons, l'anecdote qui est dans le livre, c'est qu'il voulait passer pour faire la procession pour aller à l'enterrement de quelqu'un.
Ouais.
Un troupeau de vaches qui le bloque, il a passé par un champ de fardoche, mais deux jours plus tard, il a poussé des légumes là-dedans, comme si le fait de passer là avait béni la terre. Et... Est-ce que...
Ah, mon Dieu, ça, des histoires de même, il y en a à tonne. Puis moi, j'en ai eu une dans la maison chez nous, la maison que je viens de vendre, l'LP Frédéric. L.P. Frédéric a fait un miracle dans la maison chez nous qui fait que moi, j'ai collectionné les statues du Père Frédéric, puis la relique du Père Frédéric, puis des images du Père Frédéric, puis tout ça.
C'est quoi le miracle?
Puis le miracle, on
t'a fait taire? Wow!
Non, mais c'était une autre. Ah. Elle... En 1908, le Père Frédéric, il passait de porte à porte, puis il vendait des livres qu'il avait écrits sur Saint-François, puis sur Sainte-Anne, puis sur Sainte-Marie, puis tout ça, et dont l'argent servait à la restauration des lieux saints.
Okay.
Fait que là, il arrive dans la maison chez nous, passe par la cuisine de thé, puis là, il y a une petite fille qui est dans la salle de lavage en arrière, une toute petite pièce qui est grande comme une salle de bain, puis là, elle a hurlé comme une bonne, puis tout ça. Et là, le Père Frédéric, qui était accompagné de M. Langevin ou Lanouette, là, j'oublie, dit à la veuve éplorée qui était là, pourquoi qu'elle pleure de même? Pourquoi qu'elle hurle? Ah, on n'est pas capable d'ouvrir la porte. Fait que là, celui qui accompagnait le père Frédéric en mâle devant la veuve, il dit, ben là, ça fait, maman, vous aider, moi, l'ouvrir la porte, essaye d'ouvrir la porte, pas capable d'ouvrir la porte. Et le père Frédéric de dire, ben si Saint-François fait des grandes choses, il doit tout bien faire des petites choses de même, flang, rouvre la porte. Miracle.
Les hommes forts ont dit, ben oui, mais ils l'avaient slacké.
Ben, probablement.
Comme le pot de pécule, là, qu'on a fait tout d'ouvrir ensemble. Ben,
oui, exactement. Puis là, ils ont un miracle. En fait, quand j'ai parlé de ça, moi, après ça, avec les franciscains, en disant, j'ai eu un miracle chez nous, ils ont dit, ben oui, on connaît l'histoire, mais on ne savait pas c'était où exactement à Champlain. Et ça fait partie du dossier de canonisation. Puis là, tout de suite, c'était le Père Gentil Turcotte à ce moment-là. Le Père Gentil me dit, non, non, mais là, attention, il n'y a personne qui croit que c'est un miracle. Il dit, ça illustre la perception que les gens avaient de certaines personnes. Donc, un processus bien connu qui s'appelle la construction du héros.
Un héros, c'est quelqu'un qui a fait de quoi de surréel, d'extraordinaire, qui est bien souvent au service de sa communauté, puis que c'est ça qui l'a amené à surpasser. Puis selon moi, le plus important, c'est qu'il n'y a pas de héros sans auditoire.
C'est toujours quelque chose de banal qu'on légendifiait ou des fois, il y avait des choses très...
Ah non, il y avait des choses des fois très, très, très impressionnantes, sans aucun doute. C'est à Champlain, quand à un moment donné, là il ne mouillait pas, là, c'était épouvantable, là, c'était la sécheresse, puis là, tout le monde était pour probablement mourir de famine, puis tout ça, puis là, le curé sort avec son Saint-Sacrement dans les mains, puis là, envoie la procession, puis ils sont même pas capables de rentrer dans l'église avant que la pluie tombe, et là, il tombe une pluie qui fait qu'il a sauvé les récoltes, puis toute la patente, tu sais, c'est...
Oui, c'est ça, parce que moi aussi, j'ai ça dans mes contes, c'est un curé qui... Il fait mouiller, là, je l'appelle le père à pluie, qui fait amener, là, parce qu'il y a un feu dans le village. Fait que, on dirait que ça, on dirait qu'il y a eu partout. Pour de vrai, quand je vais dans plein de villages du Québec, comté, on me raconte souvent un curé qui a amené la pluie, qui a appelé la pluie.
Ouais. Oui, oui, puis des images au manoir de Tonnancourt à Trois-Rivières, l'image de Saint-Joseph qui a stoppé le feu de 1908, qui a empêché le manoir de passer au feu.
Notre patrimoine regorge d'histoires de curés, parfois en trop grande vérité, parfois en douce menterie, souvent les deux en même temps. Sûrement parce que les curés étaient présents dans toutes les sphères de nos vies. Fait que c'est pas rare que le curé apportait parfois la chicane. Mais plus rarement, c'était son église. Ben, pas la bâtisse en elle-même, là, le terrain de où ce que c'est qu'on va la mettre, cette église-là.
Dans le village de Saint-Pierre-les-Béquets, il y avait, à une certaine époque, un très grand différend entre deux groupes de gens. Depuis l'interdiction de tenir des messes dans la vieille église, celle qui ressemblait à un tas de boîtes sur lequel on avait lancé des roches, il y avait une saga au sujet de l'emplacement de la nouvelle. En haut, dans le troisième rang, ou alors en bas, dans le deuxième rang. D'un côté, celui du haut, ayant un dénommé Joseph Dion à leur tête, un marchand notoire de la paroisse, le clan des Coques Noires. Son vis-à-vis, le clan d'en bas, ayant un dénommé Augustin Maurras comme représentant un riche cultivateur, les Coques Blancs. L'auberge était remplie. Les deux clans s'étaient présentés pour défendre une fois de plus leur position. On y allait de requêtes et de contre-requêtes, de propositions et de contre-offres. La bière coulait, les coudes se levaient, les esprits s'échauffaient, les arguments devenaient physiques, le ton montait, le niveau des verres baissait, l'aubergiste les remplissait. C'était le bon temps des belles discussions.
Dans la lecture des archives historiques sur ce compte-là, j'ai appris que ça a l'air qu'avec tous les matériaux, la manutention des hommes, la main-d'œuvre, l'énergie, l'argent dépensé, avec tout le va-et-vient sur les 17 ans de chamail, il y aurait pu, dans ce village-là, se construire 4 églises, complètes, confessionnales inclus.
Y a-tu d'autres anecdotes d'églises, de guerres, de villages, de ceux d'en haut de la côte contre ceux d'en bas de la côte, puis finalement, on va la mettre en pente dans le milieu?
Il me semble que du côté de la petite église protestante qui s'était construite à Masquinongé, si je ne me trompe pas, c'était justement parce que l'église n'avait pas été construite proche de chez eux, puis ils avaient... il me semble que c'est dans ce coin-là. Mais là, ils ont dit, bon, ben c'est correct. On ne peut pas avoir une église catholique chez nous, on va se mettre une église protestante. Puis là, ils se sont mis une église protestante. Ben,
une bonne façon de s'en sortir.
oui, exactement.
C'est drôle de voir qu'avant, on pouvait se battre pour savoir de où est-ce qu'on va mettre une église. Puis aujourd'hui, ben, il n'y a plus grand monde qui se bat pour la conserver. On en revient donc au concept d'exculturation. Puis je sais que c'est pas juste chez nous, là. Partout, ça planète au complet. Mais on dirait que tous les conteurs puis les conteuses ont un curé en quelque part dans leur histoire. Pourquoi diable on a encore des curés dans nos contes?
Une espèce de legs immatériel, probablement. Tu sais, cette omniprésence-là, puis t'as raison, c'était pas juste chez nous là, que le prêtre était omniprésent. Il était omniprésent partout en France où qu'on voudra, là, tu sais. Mais je pense que chez nous, ce rapport-là qu'on a eu avec les prêtres, avec la présence du curé, si le curé n'avait pas été un défenseur du monde, ça aurait fait longtemps. Là, les gens s'en seraient débarrassés rapidement. Ça ne se peut pas qu'une société, que tu aies autant de monde que ça, quand il se ramasse 25 000 au dévoilement de la statue de Monseigneur La Flèche à Trois-Rivières, ils dévoilent une statue d'un évêque, puis ils sont 25 000 autour là-dedans. Ça se peut pas que les 25 000 étaient tous des malades mentaux. Là. Ils devaient en avoir 3 ou 4 d'intelligents.
c'est ça.
Je fait que il y a comme probablement cette espèce de legs immatériel difficile à toucher aujourd'hui. Je sais pas. Mais
non, c'est ça, moi non plus. En discutant avec beaucoup de collègues conteurs et conteuses, il y en a bien au Québec qui aiment ça avoir un curé. Comme on dirait qu'il y a un archétype qu'on a, que d'autres n'ont pas. Que peut-être on le compare souvent au roi de France ou en Irlande, l'archétype du roi, nous, c'est l'archétype du curé, puis ça ressemble beaucoup.
Oui, le curé, le notaire, le médecin, tu sais, cette espèce d'élite dans nos villages que tout le monde... quand le docteur arrive à la maison, là, aujourd'hui, on stéréotype ça en disant, bon, quand le curé arrivait à la maison, on se dépêchait à faire le ménage avant. Non, quand le docteur arrivait à la maison, on se dit, excusez, monsieur le docteur, là, le ménage n'a pas été fait.
Mais en fait, l'hypothèse là, c'est toutes des vies qu'on ne connaît pas. Moi, le notaire, il fait des affaires que je ne suis pas capable de faire. Le médecin, il peut me guérir, je ne suis pas capable de faire ça. Le curé, directement avec le bon Dieu, fait qu'il fait aussi lui des miracles. Des c'est tout.
Ouais, c'est bon, c'est bon.
Des choses qu'on ne connaît pas, fait qu'on les, ouais. On les glorifie, on les met sur une.
Tu sais, il y a comme une espèce de rapport à l'autre. Et ce rapport à l'autre-là, dans nombreux de nos contes et légendes et tout ça, ça tourne autour de l'étranger. Là, aujourd'hui, l'étranger, c'est, il est sur Facebook. Aujourd'hui, on a peur. Tu sais, mon Dieu, m'as-tu pogné un virus? bon. Fait que là, on a ceux-là aujourd'hui, mais c'est la même histoire de la peur de l'étranger à l'époque. Puis effectivement, ces gens-là, ben, c'est comme les espèces de guérisseurs. Tiens, le curé côté à Sainte-Geneviève-de-Batican avec son eau magique, tu sais. On va faire une bière, d'ailleurs.
Elle va guérir quoi? Le mal de l'âme?
Oui, probablement, parce que ça, tu commences ça le matin vers 8h30, là, une bonne bière.
Avec ma tante.
Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, il y avait ces espèces de pouvoirs de ces gens-là, le notaire, le médecin, le curé, ouais.
Est-ce que, parce que c'est dans les contes, là, il y a toujours, évidemment, dans des contes, le curé et le diable, il y a tout ça dans la réalité beaucoup? Est-ce que, oui, on nous parlait d'aller en enfer, là, ou est-ce que j'ai lu dernièrement que, c'est une anecdote là, que j'ai lue, où est-ce que, vous viendrez dimanche prochain, je vais vous partager la bonne nouvelle, puis l'autre, il dit, quelle bonne nouvelle! Il paraît que c'est plus facile d'aller en enfer que d'aller au paradis. Ça va être quoi, la bonne nouvelle? À part les discours de « on va aller en enfer, on va faire ça », est-ce que le diable était quand même là dans le patrimoine religieux ou c'est vraiment dans les contes que c'est rentré puis dans la culture populaire qu'on a séparé ça en deux mondes?
J'ai l'impression que oui, dans tout cet univers religieux, le diable était toujours présent. T'sais, ça fait pas longtemps là, que le diable, il y a un gros ménage là, qui est en train de se faire depuis quelques décennies pour essayer de c'est d'éliminer là, cette idée-là du diable, la façon dont on le traite, dont on l'a traité. Mais oui, ça, effectivement. Tu sais, les gens avaient tellement peur de mourir, puis de ne pas aller au ciel. Ça, c'était une peur collective que les curés avaient, que tout le monde avait, que les docteurs avaient, que les notaires avaient, que tout le monde avait. Puis là, les gens, ça incitait même des gens à dire, « Bien, moi, je vais payer plus cher pour pouvoir être enterré en dessous de l'église. » Parce que là, je vais être plus près des saints. Et d'ailleurs, ces cimetières-là, sous les églises, on les appelle des cimetières ad sanctos, donc près des saints.
Mais dans mes anecdotes que je ramasse souvent, là, dans les superstitions, il y en a qui veulent se faire enterrer où la toiture de l'église va dégoutter sur ta pierre tombale et ta tombe, parce que là, l'église va bénir l'eau de la pluie, ce qui fait qu'elle va tomber sur toi et tu deviens oui. en terre bénite.
Ça fait que c'est exactement un modèle de croyance que les gens pouvaient avoir à l'époque. Puis tu sais, comme personne croyait autre chose que ça, il y a personne qui dit non, c'est pas vrai cette affaire-là, t'es en train de tromper le monde. Aujourd'hui, c'est facile. On dit, tu vois bien qu'ils voulaient tromper ce monde-là. Mais non, ils ne le savaient pas eux-mêmes.
Personne ne le savait, oui.
Personne ne le savait. c'est comme moi, je reproche bien, bien gros au curé de l'époque de ne pas nous avoir sorti Internet avant.
Ouais, il y avait le Wi-Fi avec le bon Dieu.
Ouais, gang de maudits profiteurs d'égoïstes de tout ce que tu veux.
Ils avaient déjà leur croix 5G sur le clocher.
voilà, exactement.
Le bon Dieu, le Yaob, on dirait que ça fascine les gens depuis toujours. Puis encore aujourd'hui, ça teinte nos contes, ça donne de la couleur à nos légendes, c'est dans notre patrimoine. Et comme on dit dans le petit village de Précieux-Saint,
il est plus facile de laisser le diable à sa porte que de le faire sortir de chez soi.
C'est un bon conseil à suivre. Laissez le pas entrer. Mais si jamais un vieux sorcier aux allures de Gandalf cogne à votre porte, vous pouvez le laisser entrer. Lui, c'est un bon yaob. Il va entretenir toute ta maisonnée pour le simple prix d'une tarte à farlouche.
L'histoire d'un homme forgeant matin au soir, vit apparaître un diable dans un petit coin noir. Des posa son marteau, cracha sur ses charbons, retourne à tes fourneaux, retourne à ton patron. Le diable se présenta, ouvrit son grand manteau, déroula un contrat qui lit de bas en haut. Le forgeron lui dit qu'il ne lui doit plus rien. Il y a longtemps d'ici, je lui forgeais son bien. Le diable lui ordonna de forger un trident. Ainsi tu garderas les âmes de tes enfants. Le forgeron refusa et lui pointa la porte. Retourne tout en bas, vas-y avant que je te sorte. Le diable en colère retourna vers Satan, lui expliqua l'affaire, je n'ai pas ton trident. Alors Satan revint devant le forgeron, lui expliqua en vain qu'il perdrait ses garçons. Il y a longtemps d'ici, je déferrai un pied. Ensuite, t'es reparti en demandant pitié. Un joli fer béni, un deuxième à poser. Je l'ai encore ici. Veux-tu que je le fasse chauffer? Grand roi des enfers se rappela cette nuit ce qui brûla sa chair et lui donna ennui. Un sabot au pied droit, un fer ici ses clous, couronné comme un roi, enferré comme un fou. Cela lui prit 7 ans et des visites aux forges pour enlever son tourment, se défaire de ce Saint-Georges. Ensuite lança le fer dans le fin fond d'un rang, et si on le trouve par terre, la chance pour 7 ans. Et c'est depuis ce jour que si l'on trouve un fer, chance à chaque détour, le bonheur d'un chaumière. Et la superstition veut qu'on accroche le fer au devant des maisons, à l'endroit à l'envers. Offrant la protection à nos mères, à nos pères, morale de ce dicton, écoutez bien, mes frères. Cela est plus facile que le diable soit à la porte. Il est plus difficile pour s'arranger qu'il sorte.
Merci à notre invité René Beaudoin pour sa participation. Merci à la Société acadienne Port-Royal de la ville de Bécancour pour son accueil. À Village Découvert, le balado est une production de Via 95 réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Bécancour dans le cadre d'une entente de développement culturel. À l'animation, Marc-André Fortin et Valérie Deschamps. Réalisation, adaptation et scénarisation, Valérie Deschamps. Concept et développement du projet, Philippe Saint-Pierre. Images sonores, Dominique Brouillard. Recherche, Sandrine Pelletier. Technicien de production, Justin Savard. Captation, montage et enrobage sonore, Philippe Saint-Pierre. Sur la base de la publication À Village Découvert du conteur Marc-André Fortin et sur une idée originale du comité culturel de la MRC de Bécancour. Ont aussi participé au développement du projet Louis-Martin McCardle et Marie-Claude Tremblay pour Via 95. Marthe Taillon, Isabelle Rouette et Kathleen Brisebois-Gagnon pour la MRC de Bécancour.